Bienvenue sur Radio Son Contact, une émission sur Simone Veil et le travail. Libérer le travail ou se libérer du travail. Ces réflexions ont été élaborées et présentées dans le cadre d'un chantier collectif de construction sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en avril 2020.
Je vais donner quelques éléments biographiques rapidement sur Simone Veil, mais c'est pas ça qui va nous intéresser d'abord, c'est juste pour situer un peu sa pensée et sa parole. Donc Simone Veil, c'est une philosophe des années 30, elle est née en 1910, et elle a aussi beaucoup milité dans le syndicalisme révolutionnaire, opposé au Parti communiste et à l'URSS. Donc ça faisait partie des quelques rares syndicalistes et militants de l'époque qui considéraient déjà que le régime de l'URSS avait trahi les promesses révolutionnaires. Et parfois, elle s'alliait un peu au Parti communiste, parfois non. En tous les cas, elle va aussi être une des premières penseuses ou intellectuelles à faire l'expérience du travail en usine. Elle va travailler un an en usine en 1934, parce qu'elle considère que pour penser le travail et ses mutations à l'époque où elle vit, il est impossible de ne pas faire l'expérience du travail. Ça va la mener aussi, en 1936, à faire la guerre d'Espagne. Enfin, ses engagements vont la mener à aller lutter aux côtés de la colonne Durruti en Espagne. Puis elle se retire de la politique partisane, au moins. Elle considère qu'il n'y a pas d'organisation qui correspond à son désir d'engagement politique. Donc pendant les années, donc de 36 à 1940, elle se retire des organisations. Mais quand la guerre éclate, elle tente de partir à Londres et elle finit par y arriver. Et c'est là-bas qu'elle meurt en 1943. Bon, je vais m'en tenir là, et si vous intéressez à cette existence qui est assez exceptionnelle, vous pouvez aller regarder de plus près. Donc ce qui va m'intéresser là, c'est d'essayer de répondre ou de donner des éléments pour sortir un peu, ou en tout cas situer le paradoxe qu'on a donné au début, qui est donc, est-ce qu'il faut se libérer du travail ou est-ce qu'il faut libérer le travail ? Je vais essayer d'expliquer un peu plus précisément en quoi consiste cet antagonisme. Pourquoi est-ce que là, on est pris, en tout cas, nous qui essayons de au moins modifier des choses dans la manière dont on travaille aujourd'hui, pourquoi est-ce que la question se pose dans ces termes ? Donc, tout d'abord, on va essayer d'un peu mieux comprendre ce qu'on entend par travail, puisque le travail, il s'inscrit dans une espèce de tripartition, comme ça, classique, au moins occidentale, des activités, entre, disons, le paysan, donc le travailleur, le prêtre et le guerrier. Ça, c'est la tripartition occidentale des activités. Puisque le travail, il se distingue d'abord de l'action. L'action, on entend par là toute forme d'action qui a sa fin en elle-même. C'est-à-dire qui n'est pas fait en vue d'autre chose qu'elle-même. Et en fait, l'action, c'est d'abord le guerrier. En fait, on pense au sport ou à la politique. Toute forme d'action libre, c'est-à-dire choisie, qui a sa fin en elle-même, qui n'est pas une contrainte, contrairement au travail, qui est toujours une action qu'on fait en vue d'autre chose, en vue d'obtenir un résultat. Donc le travail se distingue de l'action, comme une activité contrainte se distingue d'une activité libre. Et on peut penser du coup que le travail s'oppose, en termes d'exemple, au sport, à la politique, etc. Le travail se distingue aussi du loisir, c'est-à-dire du temps libre, dans le sens contemporain et courant. Mais ce qui nous intéresse, c'est que le terme de loisir, en grec, ils se disent scolé, et c'est la racine qui a donné école. Pourquoi est-ce que c'est une même racine pour le temps libre et pour l'école? Ça paraît absolument contradictoire. C'est parce que le loisir, pour les Grecs et pour le monde antique en général, le temps libre, donc, c'est pas un temps vide ou un temps de détente, c'est justement le temps de la contemplation, le temps de l'étude. Et donc le travail, pour résumer, c'est l'activité de production, qui a sa fin en dehors d'elle-même, qui n'est donc pas une activité libre, qui est une activité contrainte, qui se distingue donc à la fois de l'action et de la contemplation, qui sont deux autres moments de l'existence qui ont leur fin en elles-mêmes. Donc voilà, le travail, ça correspond à la tripartition entre le prêtre, le paysan, le guerrier, qu'on peut aussi désigner en disant la tripartition penser, attaquer, construire. Trois dimensions de l'existence, un peu arbitrairement choisies, mais qui correspondent à des réalités sociales et historiques dans le monde occidental. Bon, une fois qu'on a posé ça, ce qui nous intéresse, c'est que aujourd'hui, dans le monde contemporain, le travail à une espèce d'hégémonie paradoxale. Je m'explique. L'origine du monde contemporain, disons les sociétés occidentales contemporaines, ce à quoi on peut les opposer, c'est les sociétés d'ancien régime, et évidemment la rupture qui marque la transition des deux, c'est 1789. Et pourquoi est-ce que ça nous intéresse pour le travail? C'est parce qu'on passe, disons, du monde d'ancien régime au monde contemporain par la destruction des hiérarchies entre les classes, c'est-à-dire par la révolte du tiers-état. Autrement dit, les travailleurs, les paysans, ceux qui sont dans cette, qui correspondent à cette répartition-là, refusent de continuer à être les seuls à subvenir aux besoins de tous. Ils refusent que la société soit organisée par la tripartition entre prêtres, paysans et guerriers, et veulent que la catégorie de producteurs soit partagée par tous. C'est ça qui crée les sociétés contemporaines. Et en effet, aujourd'hui, on est toujours dans des sociétés où, disons, que ce soit le penseur ou le politicien, l'action ou la contemplation, ces deux catégories-là sont elles aussi supposées travailler pour gagner leur vie. Ça veut dire quoi, travailler pour gagner sa vie ? Ça veut dire produire de la valeur qui est socialement évaluée sous la forme argent. Donc voilà. Cette révolte du tiers-état, ou ce partage socialement équitablement réparti du statut de travailleur, pose, disons, au moins deux problèmes. Le premier, qui a été mis en évidence par Marx et par la tradition marxiste, c'est que, en réalité, l'exploitation n'a pas disparu. Autrement dit, le fait qu'il n'y ait plus des hiérarchies entre des classes bien distinctes par des privilèges de naissance ne signifie pas qu'il n'y a pas une division inéquitable des genres d'activité. C'est vraiment l'acquis du marxisme qui a montré que des rapports de classe persistent au sein de sociétés fondées sur, prétendument, des individus égaux et libres, et plus précisément, sur la liberté d'acheter et de vendre de la force de travail. Donc ça, c'est le premier problème. C'est la persistance de l'exploitation, donc de l'inégale répartition des genres d'activité, dans une société prétendument égalitaire. Le deuxième problème que pose l'extension du statut de producteur à tous les individus, c'est qu'au lieu de donner à tous plus de temps libre, l'universalité du statut de travailleur conduit le travail à dévorer les autres genres d'activité. Autrement dit, non seulement la pensée et la politique sont désormais considérées comme du travail qui doit prouver sa productivité et sa capacité à produire de la valeur, mais il est même devenu difficile de distinguer entre travail et loisir, entre temps productif et temps de repos. On peut penser tout bêtement à Facebook et à l'ensemble des applications qui sont utilisées pendant notre temps de loisir et qui en fait produisent de la valeur. Et d'une manière plus générale, on peut penser aux mutations des formes contemporaines du travail, où le temps de travail n'est plus strictement identifié dans une journée, où on a 8 heures de travail, 8 heures de repos, et où en fait on est toujours un petit peu en train de travailler, un petit peu en train de s'améliorer, en train de devenir un bon producteur. Où on est toujours sur le point d'être appelé par l'application qui nous envoie livrer un paquet à l'autre bout de la ville. Ce deuxième problème, un problème qui est un peu plus contemporain, ou en tout cas qui a été mis en évidence plus récemment que celui de l'exploitation, on peut l'appeler de manière très générale le problème de l'aliénation. Je dis ça parce qu'on peut dire que c'est le problème qui fait que notre temps ne nous appartient plus, que la finalité nous est dérobée. Je vais un peu revenir sur ce problème. Mais bon, une fois qu'on a posé ça, donc la tripartition occidentale traditionnelle des activités, le fait que dans cette tripartition traditionnelle, le travail a pris une forme hégémonique, la question maintenant c'est que faire ? Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Il y a eu différentes réponses dans la tradition révolutionnaire et elles prennent la forme du problème que je posais au début, à savoir est-ce qu'il faut libérer le travail ou est-ce qu'il faut se libérer du travail ? La première réponse, celle de la tradition révolutionnaire, celle du mouvement ouvrier, elle répond au problème numéro 1, la persistance de l'exploitation dans une société prétendument libre. Et elle y répond en libérant le travail. Elle cherche à libérer le travail, c'est-à-dire à supprimer l'exploitation en abolissant les classes. Elle dit qu'il ne suffit pas, autrement dit, d'abolir les privilèges de naissance, et qu'il faut abolir les classes. Et ce, par la prise du pouvoir par les ouvriers. C'est pour ça que dans la société communiste, idéale, il n'y a plus de distinction entre un prêtre, un paysan, un guerrier, ou entre un ouvrier et un bourgeois. Je vais vous lire un petit extrait d'un texte de l'idéologie allemande qui décrit ce qui se passe après la mise en place de la société communiste, dans laquelle le travail est réellement équitablement réparti, socialement et équitablement réparti. Et là, on va vraiment réussir à libérer du temps pour tout le monde. Donc je vous lis ce texte. Aussi longtemps donc que l'activité n'est pas divisée volontairement, mais du fait de la nature, l'action propre de l'homme se transforme pour lui en puissance étrangère, qui s'oppose à lui et l'asservit, au lieu qu'il ne la domine. En effet, dès l'instant où le travail commence à être réparti, chacun a une sphère d'activité exclusive et déterminée, qui lui est imposée et dont il ne peut pas sortir. Il est chasseur, pêcheur, ou berger, ou critique. Et il doit le demeurer s'il ne veut pas perdre ses moyens d'existence. Tandis que dans la société communiste, où chacun n'a pas une sphère d'activité exclusive, mais peut se perfectionner dans la branche qui lui plaît, la société réglemente la production générale, ce qui crée pour moi la possibilité, l'après-midi, de pratiquer l'élevage, le soir, de faire de la critique après le repas, selon mon bon plaisir, sans jamais devenir chasseur, pêcheur ou critique. Donc voilà, ce qui fait que la société répartit vraiment le travail, et pas le marché, et pas non plus des classes déterminées par la naissance, c'est ça qui fait que du temps va se libérer et qu'on va vraiment pouvoir faire ce qu'on veut, pour le dire simplement et rapidement. Donc, voilà, le marxisme traditionnel, la tradition révolutionnaire traditionnelle, place le travail au centre de la doctrine et au centre de l'action politique. comment on arrive à la société communiste. L'avènement du communisme, c'est l'action du prolétariat qui libère le travail par la collectivisation des moyens de production. Et donc c'est bien la classe des producteurs qui a le pouvoir de faire la révolution en étendant à tous ce statut de producteur, mais pour s'en défaire, pour que tous puissent réellement faire ce qu'ils veulent. Bon, ça, voilà, c'est la réponse au premier problème, celui de l'exploitation, par la tradition révolutionnaire. Ce qui se passe dans les années 70, avec la désindustrialisation et avec les critiques du modèle soviétique qui commencent à devenir vraiment répandues, c'est que la centralité du travail est remise en question, à la fois pratiquement et théoriquement. L'idée que la révolution, c'est la dynamique de la classe ouvrière qui devient la classe dominante et qui libère le travail en s'emparant des moyens de production, cette idée-là perd de son évidence. On peut penser en particulier à l'autonomie italienne, qui est un des mouvements qui a le plus mis en avant le mot d'ordre de refus du travail et qui a sorti l'action politique des usines, mais aussi à différentes expériences communautaires et plus généralement et plus tardivement au mouvement altermondialiste qui place l'opposition au mode de production capitaliste en dehors du monde du travail et en dehors d'une stricte pensée de la lutte des classes. Donc, je vais vous lire une citation de Paolo Virno qui résume assez brillamment ce tournant. La sortie de la société du travail et la possibilité qui en découle d'une bataille ayant pour enjeu le temps, sanctionne la fin de la gauche. Je la relis une fois, et c'est extrait d'un texte qui s'appelle « Quelques notes à propos du général intellect ». Donc je relis la citation de Paolo Virno. « La sortie de la société du travail, et la possibilité qui en découle d'une bataille ayant pour enjeu le temps, sanctionne la fin de la gauche. » Donc voilà, dans les années 70, on peut dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle la fin de la gauche, dans la mesure où on ne peut plus se battre entre ouvriers et bourgeois sur le temps de travail. Plus seulement, en tout cas. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement de répondre au problème numéro 1 de l'exploitation, mais aussi de répondre au problème numéro 2, qui était celui de l'aliénation. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement de travailler moins, mais il s'agit de changer nos manières de faire. Et pour répondre à ce deuxième problème, qui est celui que le travail a englobé toutes les autres activités, il y a au moins deux pistes, et on retrouve notre opposition entre est-ce qu'il faut libérer le travail ou est-ce qu'il faut se libérer du travail. Il y a au moins deux pistes donc pour répondre à ce problème. La première piste, elle consiste à dire qu'il faut abolir le travail. Et pour abolir le travail, en gros, on s'appuie sur le progrès technique et on dit qu'il suffit tout simplement pour avoir des sociétés libres, il faut pour cela abolir cette dimension de l'existence qui est celle de la production. Autrement dit, on veut des sociétés de créatifs et de politiciens, d'artistes et de militants, si on veut le dire dans des termes qui sont les plus proches. Mais en réalité, c'est la même idée. Parce que l'on se passe du travail par la robotisation générale ou par la débrouille, il s'agit dans tous les cas de se libérer de cette dimension de l'existence qui est le fait d'œuvrer à la production de choses qui vont nous être utiles pour se consacrer aux autres genres d'activités, c'est-à-dire à la contemplation, à la pensée, ou à l'action, à la politique. Et cette intuition-là, l'idée qu'il faudrait abolir le travail pour arriver à la liberté, on la retrouve dans divers courants de pensée et diverses pratiques politiques. On peut penser au négrisme, mais aussi au transhumanisme, ou encore à un certain anarchisme. Dans tous les cas, on est du côté de se libérer du travail. Il y a une autre piste pour répondre au problème de l'aliénation que posent les formes contemporaines du travail, qui consiste pas à abolir le travail, mais à redifférencier les activités. Comment on fait pour faire en sorte que le travail cesse d'englober, d'avaler toutes les autres genres d'activités ? Eh bien, on recrée de la différence, on transforme nos manières de faire. Autrement dit, il ne faut pas approfondir le mouvement d'abolition des différences qui consiste à étendre le statut de travailleur à tous, mais au contraire, abolir cette injonction universelle à produire de la valeur, qui dit que toutes les activités, quelles que soient leurs caractéristiques, doivent produire de la valeur et donc doivent être du travail. Autrement dit, il s'agit de rétablir des distinctions entre les genres d'activités, penser, attaquer, construire, entre le prêtre, le paysan, le guerrier, sans rétablir la hiérarchie d'ancien régime, évidemment. Il ne s'agit pas de recréer des sociétés hiérarchisées entre les genres d'activités. Par exemple, Simone Veil va être de ce côté-là, du côté de la différenciation des activités, et l'enjeu, c'est vraiment de recréer de la distinction sans recréer de la domination. C'est une espèce de communisme de la différence. Donc voilà, comment on fait ça, puisque là ça va être la piste qu'on va explorer, et ben on va aller voir avec Simone Veil quelques pistes pour répondre à cette question. D'abord, avant d'avancer des pistes de réponse, on va quand même essayer de comprendre un peu mieux ce que ça veut dire que le travail est tout englobé dans nos sociétés contemporaines. On va essayer de préciser un peu le concept de travail et celui de productivisme. Parce que, et pour ça, on va s'appuyer pas seulement sur la pensée de Simone Weil, mais aussi sur celle d'une philosophe qui s'appelle Hannah Arendt, qui écrit un petit peu après, mais qui a elle aussi vécu la période des années 30 et la Seconde Guerre mondiale. Donc toutes les deux, elles s'accordent pour critiquer à la fois le productivisme, c'est-à-dire ce qu'elles considèrent comme étant une idéologie partagée par l'Ouest et l'Est, en tout cas l'URSS et l'Occident, qui est l'idéologie productiviste. Donc elle critique ça d'un côté, et également la promesse du loisir pour tous, c'est-à-dire d'une société libérée du travail. Elle critique les deux, toutes les deux. Et pour ça, je m'intéresse à Arendt parce qu'elle propose une distinction qui est intéressante pour comprendre vraiment ce que ça veut dire que le travail est tout englobé. La distinction qu'Arendt imagine, en tout cas propose plutôt, pardon, c'est une distinction entre trois types d'activités qui correspond au travail, à l'œuvre et à l'action. Je mets de côté la contemplation, c'est encore un autre type d'activité ou d'existence, mais on l'a donné au début, faut juste penser que ça reste là, c'est encore un autre genre d'activité, mais là on va créer à l'intérieur de la distinction entre travail et action, une autre distinction entre travail, œuvre et action. Bon, j'explique un peu. Imaginez-vous un tableau, et le travail c'est quoi ? C'est ce qui produit des objets de consommation. L'exemple, ou des objets de consommation, ou qui est une activité cyclique, dont en gros, on fait l'activité et à la fin on n'a pas plus que ce qu'on a. C'est ça qui est important. C'est une activité cyclique. On peut penser, en fait, l'exemple le plus type, c'est la vaisselle par exemple. Activité qui est dictée par une nécessité extérieure, qui est imposée par le monde tel qu'il est, on n'y peut rien, si on pouvait on s'en passerait, mais c'est comme ça, c'est une activité qu'il faut reproduire constamment juste pour recréer nos forces, notre vie et le monde tel qu'on désire qu'il soit. A l'inverse, donc, l'œuvre, ça fait partie du travail, c'est-à-dire que c'est une activité de production, mais elle ne produit pas des produits de consommation, elle produit des objets d'usage qui vont durer au-delà d'un cycle complètement cyclique. On peut penser là à la construction d'une maison, par exemple. L'œuvre, c'est construire une maison. Le travail, c'est faire la vaisselle. Et donc, ça, c'est différent parce que la finalité, elle est choisie. Elle n'est pas imposée par l'extérieur. On choisit de construire une maison, on choisit la figure qu'elle aura, et ça correspond à une utilité réelle. Et ça dessine un monde autour de nous. C'est pas imposé par une nécessité naturelle. La figure qui correspond au travail, au ce sens strict, c'est la figure en fond de l'esclave ou de l'ouvrier. C'est lui qui a une pure énergie machinique qui vise à purement reproduire des forces pour que les autres, eux, puissent œuvrer à fabriquer. Les autres, donc les artisans ou les artistes, eux, puissent œuvrer à fabriquer des objets d'usage. Dont ils choisissent la finalité, dont ils maîtrisent la finalité. Enfin, la dernière catégorie, c'est l'action. Ça correspond aux dimensions de la politique. Là, on est dans une action qui est immédiate. L'exemple, c'est par exemple la manifestation ou la bataille. Là, l'action, elle a sa fin en elle-même, elle est librement choisie. Et la figure, c'est celle du citoyen ou du militant. Bon. Pourquoi elle nous intéresse cette distinction ? Parce qu'on va voir que c'est vraiment le travail au sens strict, c'est-à-dire le travail en tant qu'il est une activité cyclique qui produit des produits de consommation et qui est imposée par la nécessité, et dont la figure est celle de l'esclave, et non pas qui a englobé toutes les autres activités. C'est-à-dire à la fois l'œuvre, l'action et la contemplation. Le travail est tout englobé, et pourquoi est-ce que ça c'est vrai ? Parce que si on examine un peu ce qui caractérise la condition de l'homme moderne, cette distinction là que je vous présente, donc d'Anna Arendt, elle est extraite d'un livre qui s'appelle « La condition de l'homme moderne ». Et donc, ce qui caractérise la condition de l'homme moderne, c'est que la sphère de la production, la sphère du travail au sens strict, a tout englobé. À l'inverse, par exemple, du monde antique, dans lequel la sphère du travail pur est réservée aux esclaves, et où les hommes libres se consacrent à l'action politique et à la contemplation. Valorise ce monde-là. Il est hors de question que des hommes libres travaillent. Donc ce qui caractérise la modernité, c'est que toute activité se pense comme un travail, y compris la politique. On peut penser pas seulement au politicien qui dit « je travaille, regardez, je suis salarié », etc. Le militant lui-même, il pense son action comme un moyen en vue d'une fin. Pense même Lénine, quand il écrit ses textes de politique, il considère que l'action du militant, c'est un moyen en vue d'une fin qui est la révolution, et qu'il faut travailler à la révolution. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut dire donc que le travail moderne, toute activité moderne est un travail au sens strict d'un travail d'esclave ? C'est parce que, en deux sens, c'est un travail sans fin. Sans fin parce que sans finalité, c'est-à-dire c'est une activité absurde, au sens où, en effet, le processus de production moderne, le processus de production capitaliste, de la société industrielle, produit des objets. C'est pas que des produits de consommation qui se détruisent immédiatement. Mais d'une part, voilà, on connaît les critiques sur l'obsolescence programmée, tout ce qui fait que les objets produits dans un cycle de production industrielle ont une durée de vie beaucoup plus limitée que des objets issus de l'artisanat. Mais surtout, ce qui fait que c'est un processus sans fin, c'est que, en fait, dans ce processus, l'individu, le travailleur, il travaille au sens strict du terme parce que c'est une activité qui a pour but l'argent gagné. C'est pas une, c'est une activité dont on ne maîtrise pas la finalité. On fait un travail en vue d'un salaire, et du coup, on n'est pas en vue d'un objet dont on maîtrise l'usage et le sens. Et historiquement, la formation de l'industrie moderne, elle se fait par la destruction de l'artisanat. Donc c'est la catégorie œuvre qui est détruite par la catégorie travail. Si on l'analyse dans les termes de Hannah Arendt. L'activité moderne, en un autre sens, elle est sans fin. Elle est sans fin parce qu'elle est illimitée dans le temps. C'est au sens où c'est vraiment une activité cyclique, infinie, qui s'arrête jamais. Il n'y a pas un moment où on se dit « c'est bon, j'ai atteint mon but et je peux m'arrêter ». Il faut penser aux courbes de croissance, voilà, c'est des banalités, hein, mais là, c'est ça qui montre bien que la finalité, elle est complètement dissociée de l'activité en elle-même. On continue à travailler parce qu'on doit continuer à produire de l'argent, et continuer à produire de l'argent, de la valeur même. Bon voilà, c'est juste pour dire que ça a un sens assez précis de dire que le travail en tant que catégorie a englobé les autres catégories d'action, que ce soit l'œuvre, l'action au sens politique et la contemplation. Ça veut dire que tout devient une activité sans fin, c'est-à-dire à la fois sans sens, sans finalité comprise, maîtrisée, et sans fin au sens de sans arrêt, sans fin dans le temps. Il y a à la fois des objets, on produit des objets de consommation à l'obsolescence programmée, et aussi cette notion d'activité sans fin, elle explique l'automatisation. Puisque si l'activité moderne, contemporaine, c'est un pur moyen, le travail c'est un pur moyen, la vaisselle on veut juste essayer de l'éviter, le travail d'esclave c'est quelque chose dont on cherche à se passer. C'est un pur moyen en vue d'une fin, il est complètement extérieur. Et donc si toute activité est un pur moyen, en effet, l'enjeu c'est de le remplacer par des robots, on va pas essayer de le faire nous-mêmes, il n'y a aucun sens à vouloir travailler. Autrement dit, le travail, ce qu'on cherche à en faire, c'est à en faire l'économie. Et faire l'économie du travail, ça veut dire le remplacer par une machine. Et ça en fait c'est vraiment le paradoxe de fond de la structure de l'action contemporaine. C'est que le travail est mis au centre, il a englobé toutes les autres activités, et en même temps, on cherche à en faire l'économie, parce que ça continue à être considéré comme du travail d'esclave, du travail cyclique inintéressant, qui est un pur moyen, et du coup, on met le travail au centre, il englobe toutes les activités, et en même temps, on cherche désespérément à ne pas le faire, à en faire l'économie et à le remplacer par des robots, pour en arriver à une espèce de société de travailleurs sans travail, selon l'expression de Hannah Arendt. Elle a cette expression-là, qui est une société en fait de travailleurs désœuvrés, de travailleurs qui sont désœuvrés dans leurs loisirs. Et elle écrit ça dans les années 50, et c'est quand même assez, c'est assez lumineux comme façon d'anticiper. Bon, voilà. Cette critique-là, donc cette critique qui dit le travail est tout englobé, et c'est pas bien parce que c'est une activité qui a un ensemble de caractéristiques qui ne devraient pas englober toutes les autres, cette critique-là, elle s'applique autant à l'économie de marché qu'à l'économie planifiée. Puisque, bon, ça c'est devenu, ça aussi c'est des banalités maintenant, c'est un peu des évidences que ce soit dans un système capitaliste que dans un système socialiste, c'est-à-dire où l'économie est contrôlée par l'État, dans les deux cas, en tout cas historiquement, dans les formes historiques que ça a prises, l'activité humaine, elle est placée sous l'impératif de productivité, quel que soit le régime des propriétés des moyens de production, pour le dire simplement. En gros, toutes les activités sont subsumées sous la logique du travail, et toutes les activités continuent à être considérées comme des purs moyens dont il faut se passer. Je vais vous lire rapidement une citation de Simone Weil sur qui critique conjointement le capitalisme et le marxisme. Ce qui m'intéresse, c'est l'expression qu'elle utilise, donc qui est extraite d'un ouvrage qui s'appelle « Les réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale ». Elle n'a pas trop le sens des titres, Simone Weil, c'est pas toujours très, très frappant comme formule. Par contre, je vous lis cette formule, donc. Simone Weil critique ce qu'elle appelle « la religion des forces productives », au nom de laquelle des générations de chefs d'entreprise ont écrasé les masses travailleuses, sans le moindre remords. Cette religion des forces productives constitue également un facteur d'oppression à l'intérieur du mouvement socialiste. Bon, c'est devenu des banalités, mais elle écrit ça en 1932, donc ça montre quand même une certaine lucidité sur les formes historiques du rapport à la production. Je vais finir ce moment en rappelant donc le paradoxe moderne que j'ai dit tout à l'heure. Je le résume rapidement. Le paradoxe moderne, c'est que le travail est au centre de la vie. Il est devenu la seule activité valable et a englobé toutes les autres. Et pourtant, il est encore considéré simplement comme un moyen de gagner sa vie. Bon, c'est quoi les réponses possibles à ce paradoxe ? C'est ce paradoxe qui fait que la vie est privée de sa finalité, n'a plus de sens, est absurde, etc. C'est le paradoxe de l'aliénation. Il y a plusieurs réponses, je l'ai dit dans l'introduction. On va revenir rapidement là-dessus. Parce que Simone Weil et Hannah Arendt s'accordent également pour critiquer la position abolitionniste. La position qui dit qu'il faut se libérer du travail en abolissant cette dimension-là de l'existence. Je vais vous lire une autre citation qui donne la position de Simone Veil là-dessus, toujours extraite de l'ouvrage qui s'appelle « Les réflexions sur les causes de l'oppression de la liberté sociale ». Donc cette citation dit « C'est uniquement l'ivresse produite par la rapidité du progrès technique qui a fait naître la folle idée que le travail pourrait un jour devenir superflu. » Donc c'est uniquement l'ivresse produite par la rapidité du progrès technique qui fait naître la folle idée que le travail pourrait un jour devenir superflu. Pourquoi cette idée est folle, d'après Simone Veil en tout cas? C'est parce qu'elle est ni possible, ni souhaitable. Bon, qu'elle soit pas possible, l'idée que le travail pourrait devenir superflu, aujourd'hui ça semble relativement évident, au moins pour un ensemble de positions et de pratiques politiques, principalement au nom de la limite écologique, c'est-à-dire des limites objectives des ressources de la planète, qui fait qu'en fait il y a des limites objectives au progrès technique, et qu'on ne peut pas compter là-dessus pour se intégralement automatiser toutes les activités pénibles de l'existence. Or, la position abolitionniste, qu'elle vienne de la Silicon Valley ou de squat anarchiste, elle repose de toute façon sur la possibilité de satisfaire nos besoins, bon, j'exagère un peu, soit elle repose sur la possibilité de satisfaire nos besoins par des machines, ou par une certaine façon de se débrouiller pour extraire de la société ce qui est nécessaire à la satisfaction de nos besoins, sans avoir à en passer par une activité de production. Mais restons-en à la position abolitionniste qui s'appuie sur le progrès technique, puisque donc il y a d'un côté l'impossibilité pratique, la limite écologique ou les limites objectives du progrès technique. Je ne m'appuie pas, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que j'ai l'impression que c'est des critiques anti-industrielles qui sont relativement répandues et connues, et qui ne sont pas forcément celles de, enfin, qui sont pas beaucoup développées par Simone Veil, même si elle passe beaucoup de temps et beaucoup de pages à essayer de comprendre quelles pourraient être ses limites, sur quel, à quel endroit de la production elles vont se traduire. Mais voilà, la deuxième dimension, donc, c'est que c'est pas seulement que c'est pas possible que le progrès technique infini abolisse toutes les activités pénibles, c'est aussi que c'est pas souhaitable. Pourquoi c'est pas souhaitable? Parce que Simone Veil, comme Hannah Arendt, s'oppose à l'idée que l'émancipation, la liberté, le processus d'émancipation de l'humanité, c'est un processus c'est une manière de s'extraire de la nécessité. C'est une manière d'abolir toute forme de nécessité et d'avoir une activité libre, c'est-à-dire dénuée d'obstacles. En gros, elle dit que l'émancipation ou la liberté, c'est pas l'absence d'obstacles. C'est pas une existence qui soit totalement libérée de la contrainte. C'est une fausse opposition, dit-elle, c'est assez classique comme critique, donc je vais pas non plus m'étendre longtemps, mais c'est une fausse opposition que d'opposer liberté et contrainte. L'opposition, c'est plutôt entre une nécessité subie, extérieure, et une nécessité qui soit méthodiquement maniée. Parce que, là, elle dit, ça fait partie de l'existence humaine que de se confronter au monde, et que le monde, c'est ce qui a un caractère d'extériorité et de nécessité. Et si on veut avoir un point de vue un peu plus intuitif sur cette critique, on peut se dire que, en gros, elle, l'image d'une société remplie de créatifs et de politiciens, qui soit servie par des robots ou des esclaves, c'est pas sa cam. Que, en gros, la force créatrice de l'humain ou de l'individu, elle n'est pas libérée par l'absence d'obstacles, elle est au contraire vidée de son contenu. Quand il n'y a plus d'obstacles, on a juste plus de contenu et on sait juste plus quoi faire. C'est pour ça que, d'après Simone Veil ou Hannah Arendt, l'abolition du travail, elle est ni possible ni souhaitable, tout simplement parce qu'on y perd une dimension de l'existence humaine. Donc une fois qu'on a critiqué le productivisme, qu'on a critiqué la position abolitionniste, qu'est-ce qu'on peut proposer ? Il y a deux propositions, donc celle d'Arendt, celle de Veil, et là elles vont différer dans leurs réponses. Toutes les deux s'accordent pour dire que si on ne veut pas abolir le travail, alors il faut rétablir des différences. Si on veut éviter que, on veut détruire caractéristique contemporaine qui correspond à l'hégémonie du travail sur toutes les autres activités, comment on fait si on n'abolit pas le travail? Alors on rétablit des différences entre penser, attaquer, produire. Sauf que, pour Arendt, et elle le dit de manière un peu provocatrice, mais quand même, il s'agit de rétablir en quelque sorte la hiérarchie antique des activités, qui place l'action et la contemplation au-dessus de toute activité de production, que ce soit le travail ou l'œuvre, même si l'œuvre est à placer au-dessus du travail. Pour Arendt, en gros, il faut remettre le travail à sa place. Tout ce qui est cyclique, correspond à la nécessité naturelle, qui consiste à reproduire nos forces et tout ça, il faut en faire le moins possible, ça existe, on peut pas s'en passer. Croire qu'on peut s'en passer, c'est ça qui fait qu'on tombe dans l'utopie technoprogressiste, mais dans tous les cas, il faut quand même remettre le travail à sa place pour pouvoir se consacrer à l'action politique, à la contemplation théorique, et éventuellement à l'œuvre artisanale ou à l'œuvre artistique. Mais ça va pas nous intéresser, en tout cas on va pas creuser cette piste, parce qu'il y a quelque chose de profondément réactionnaire là-dedans. Arendt, elle rétablit la hiérarchie d'ancien régime, en quelque sorte. Et elle irait pas jusque-là, mais en tous les cas, elle conserve la dévalorisation antique du travail pour lutter contre la modernité, contre ce qu'elle voit d'abus et de folie dans la modernité. Pour elle, au fond, le travail, c'est, et ça reste, une activité d'esclave, une soumission à la nécessité naturelle et aux besoins animaux. C'est une corvée, quoi, qu'il faut réduire au minimum. Et pour nous, cette solution, elle n'est pas satisfaisante. Pas seulement parce qu'elle est réactionnaire, mais d'une part parce qu'elle repose sur des distinctions assez douteuses, en tout cas qui ont été remises en question. La distinction entre humain et animal, entre nature et société. Et d'autre part, peut-être encore plus important, la distinction d'Arendt, donc sa manière de remettre le travail dans une position inférieure, elle empêche complètement de penser tout ce qui correspond à la dimension reproductrice de l'activité de production, justement. Tout le travail reproductif, au fond, de soins, d'éducation, de cuisine, tout ce qui, dans l'activité humaine, ne produit pas d'œuvre, tout ça, elle le considère comme une activité indigne, si jamais on suit ces distinctions-là. Et du coup, elle donne aucune piste pour penser toute cette dimension de l'activité que ce soit la pensée féministe ou la pensée écologique, essaye de penser en pensant la reproduction. Et enfin, dernier problème qui est quand même pas des moindres, Arendt, elle donne aucune piste politique concrète pour rétablir cette distinction des genres d'activité. Elle ne dit pas trop comment on fait pour rétablir les distinctions entre penser, attaquer et construire. Du coup, voilà, pour toutes ces raisons, on va pas s'attarder sur la réponse d'Arendt, et on va plutôt aller chercher du côté de Simone Veil, parce que Simone Veil, elle cherche à assumer les acquis de la modernité. En gros, elle dit que il faut conserver la révolution du tiers-état, il faut conserver cette révolution qui a détruit la hiérarchie des activités. Autrement dit, il faut conserver la nouvelle dignité du travail, ce qui est vraiment l'acquis de la modernité. Elle dit même que c'est le seul endroit où la modernité a fait quelque chose de plus que les Grecs, parce que, bon, en donne philosophe, elle aime beaucoup le monde antique et elle ne cesse d'en faire les éloges, mais elle dit que là-dessus, sur le rapport au travail, il y a quelque chose qui est profondément moderne. Simplement, justement, il faut, pour dépasser le paradoxe qu'on a décrit tout à l'heure, il faut conserver la dignité du travail, mais il faut arrêter de le considérer comme un simple moyen. Il faut arrêter de vouloir en faire l'économie. Pour Veil, il faut achever le mouvement de la modernité, et pour ça, il ne faut pas abolir le travail, mais au contraire, cesser d'en faire un simple moyen. Il faut y réintroduire de la finalité. Il faut réintroduire de la finalité dans le travail pour justement le placer à la même hauteur que les autres activités qui ont leur fin en elles-mêmes, qu'il s'agisse de la contemplation ou de l'action. Et donc pour ça, elle va faire un ensemble de propositions qui sont appuyées sur des expériences directes et vécues des mondes ouvriers et paysans. Elle a bossé un an, du coup, je l'ai dit au début, dans 3 usines différentes, les grosses usines automobiles de la région parisienne dans les années 30. Et après, elle a travaillé un peu dans les champs aussi. Et donc voilà, elle va faire un ensemble de propositions pour qu'on trouve une manière de répondre à ce problème qui est quand même assez compliqué. Comment on fait pour que l'activité, donc le travail, qui est par définition une activité contraignante, c'est ce qui la caractérise, c'est une activité qu'on fait en vue d'autre chose. Comment est-ce qu'elle peut être voulue pour elle-même? Comment est-ce qu'elle peut être mise à la même hauteur que les autres activités qui ont leur fin en elles-mêmes? C'est ça le problème qu'on se pose, le problème philosophique, disons, qu'on se pose. Comment on peut donner une égale dignité à des activités aussi différentes? En maintenant leurs différences, pour pas que le travail englobe tout. Donc ça, c'est le problème philosophique. Et l'autre problème, c'est un peu, mais concrètement, ça veut dire quoi, rétablir les distinctions entre les activités? Politiquement, pratiquement, comment on fait? Je vais passer à la deuxième partie. On va passer à la partie proposition, à la partie plus positive, où on va se lancer dans l'œuvre de Simone Veil. Et où, en gros, elle, ce qu'elle essaye de décrire, c'est les conditions d'un travail non servile, ce qui est le titre d'un de ses ouvrages. Je ne l'ai pas vraiment dit, mais Simone Veil, elle est morte assez jeune, du coup. Elle est morte en 1943, en étant née en 1910. Et elle a donc assez peu écrit des ouvrages finis et édités, même très peu. Et donc il y a plein de petits textes divers et variés qui sont des manuscrits qui ont été édités à part. Je vais vous en citer quelques-uns, je ne vais pas tous les dire maintenant, et en tout cas pour désigner le mouvement général de cette partie, l'idée générale de son rapport au travail, je vous renvoie au titre de cet ouvrage-là, donc « Conditions premières d'un travail non servile ». Comment est-ce qu'on pense un travail non servile? Donc d'abord, on va, avec elle, elle va reprendre un peu ses écrits où elle décrit les mutations contemporaines, enfin de son époque donc, du travail. Et ça se caractérise par, de deux manières, par le machinisme et par la bureaucratie. Ces mutations-là, elle les décrit dans un article qui est publié en 1932, à son retour d'un voyage en Allemagne. L'Allemagne, à cette époque-là, c'est le grand conflit entre le parti nazi et le parti communiste. C'est le parti ouvrier le plus fort d'Europe. C'est l'endroit où, s'il doit y avoir une révolution, c'est là qu'elle aura lieu. C'est là qu'il faut aller si on veut comprendre les dynamiques politiques de l'Europe à cette époque-là. Donc 1932, c'est juste avant l'accession d'Hitler au pouvoir. Et donc elle part en Allemagne quelques mois pour essayer de comprendre ce qui se joue dans le mouvement ouvrier. Elle en revient complètement déprimée en disant qu'il est évident que le mouvement ouvrier ne pourra pas vaincre en Allemagne. Et elle le dit pour un ensemble de raisons qu'elle décrit dans cet article, donc, qui s'appelle « Perspective ». La deuxième partie de l'article, je crois, s'appelle « Allons-nous vers la révolution prolétarienne ». Voilà, donc l'article s'appelle « Perspective, allons-nous vers la révolution prolétarienne ». C'est un assez long article, assez complet, très intéressant, où elle décrit, en gros, les mutations qu'elle aperçoit dans les formes d'oppression. Je vais vous lire plusieurs extraits. La première mutation qu'elle aperçoit, c'est la naissance de la bureaucratie. Donc elle n'a pas besoin d'aller jusqu'en URSS pour ça, elle le voit dès quand elle va voir ce qui se passe en Allemagne. Et je vous lis cette citation qui décrit ce que c'est que la bureaucratie. Donc, devant cet état des choses, on est contraint, si on veut regarder la réalité en face, de se demander si le successeur du régime capitaliste ne doit pas être, plutôt que la libre association des producteurs, un nouveau système d'oppression. Je voudrais à ce sujet soumettre une idée, à titre de simple hypothèse, à l'examen des camarades. On peut dire, en abrégeant, que l'humanité a connu jusqu'ici deux formes principales d'oppression. L'une, esclavage ou servage, exercée au nom de la force armée. L'autre, au nom de la richesse, transformée ainsi en capital. Il s'agit de savoir s'il n'est pas en ce moment en train de leur succéder une oppression d'une espèce nouvelle, l'oppression exercée au nom de la fonction. Donc voilà, elle fait un espèce de tableau hyper général de l'histoire, au moins l'histoire occidentale, en disant voilà, il y a jusqu'ici deux formes principales d'oppression, l'esclavage qui est exercé au nom de la puissance militaire, donc les travailleurs soumis par les guerriers. Hop, cette truc-là est détruite par les révolutions modernes. Deuxième forme d'oppression, les prolétaires oppressés par les bourgeois, donc l'oppression exercée au nom de la richesse qui a été transformée en capital. Et là, elle dit que ce qui se passe, là, c'est qu'on assiste à une nouvelle forme d'oppression, qui est l'oppression exercée au nom de la fonction. C'est-à-dire que c'est non plus les propriétaires des moyens de production qui oppressent ceux qui n'ont que leur force de travail, mais c'est ceux qui sont à un certain endroit de la chaîne de production, c'est-à-dire qui ont une fonction de commandement, qui oppressent ceux qui ont une fonction d'exécutant. Elle va l'expliquer juste en dessous. Et en disant ça, non seulement elle anticipe sur des analyses qui expliquent ce qui se passe en termes de bureaucratie, en URSS, etc., mais aussi sur toutes les analyses du management contemporain, qui analyse cette nouvelle fonction de celui qui n'est pas du tout propriétaire des moyens de production. Et en réalité, aujourd'hui, même la plupart des PDG, la plupart des fonctions de direction dans les entreprises, ne sont pas des fonctions de propriétaires des moyens de production, même si souvent ce sont aussi des actionnaires. On va dire qu'au sens strict, les capitalistes, c'est juste des actionnaires. On peut difficilement dire que ce sont les seuls oppresseurs. En disant ça, en disant l'oppression exercée au nom de la fonction, elle va vraiment désigner une nouvelle répartition du travail où ceux qui sont en position de force et ceux qui sont pris dans une lutte entre différentes positions de classe, c'est pas juste les prolétaires et les capitalistes, c'est ceux qui exercent une fonction de commandement et ceux qui exercent une fonction d'exécutant. Donc, elle va un peu plus loin dans cette analyse-là, dans un deuxième moment, en analysant ce qu'elle appelle le machinisme. Donc, je vous lis une autre citation, toujours extraite de l'article Perspective. Donc, citation. On peut dire que l'oppression des ouvriers salariés, d'abord fondée essentiellement sur des rapports de propriété et d'échange, est devenue par le machinisme un simple aspect des rapports contenus dans la technique même de la production. Je relis cette première phrase parce qu'elle est importante. Donc on peut dire que l'oppression des ouvriers salariés, d'abord fondée essentiellement sur des rapports de propriété et d'échange, est devenue par le machinisme un simple aspect des rapports contenus dans la technique même de la production. À l'opposition créée par l'argent, entre acheteurs et vendeurs de la force de travail, s'en est ajoutée une autre, l'opposition créée par les moyens mêmes de la production, entre ceux qui disposent de la machine et ceux dont la machine dispose. L'expérience russe a montré qu'on peut supprimer la première de ces oppositions sans que disparaisse la seconde. Donc voilà, cette opposition-là, là, qui est assez magistralement résumée en disant « entre ceux qui disposent de la machine et ceux dont la machine dispose », qui résume la nouvelle conflictualité qu'elle est en train d'observer dans la société qui est de son époque. Et là, ce qui m'intéresse, en tout cas, ce que je trouve très intéressant dans cette phrase, c'est que la machine, ça désigne autant la machine réelle, disons, dans une usine, vous avez ceux qui disposent de la machine, bah, c'est ceux qui organisent le travail, les contremaîtres, ceux qui vont répartir le travail entre les ouvriers, etc., qui, eux, la machine dispose d'eux, ils sont au service de la machine. Ça désigne autant la machine, l'objet concret, que les algorithmes de Facebook. Donc, qui dispose de la machine, et ceux dont la machine dispose, c'est les crétins comme nous qui cliquons partout et qui produisons de la data et de l'argent pour Facebook. Mais c'est aussi bien les théories contemporaines du travail qui organisent le travail, disons les théories de management, ceux qui disposent de la machine, c'est ceux qui organisent le travail. La machine, c'est tout ce qui organise le travail, justement, et ça crée une distinction entre ceux qui peuvent disposer la machine et ce dont la machine dispose. Cette opposition-là, elle est au moins aussi pertinente que l'opposition entre propriétaire de moyens des moyens de production et propriétaire de force de travail. Donc voilà, c'est les deux caractéristiques qu'elle note là dans les mutations contemporaines, la bureaucratie et le machinisme. Et c'est ces deux mutations qui font qu'elle va considérer que la stratégie classique, la stratégie du syndicalisme et du parti communiste français à cette époque, n'est pas la bonne stratégie. Autrement dit, elle considère que, étant donné ces mutations contemporaines du travail, étant donné que, désormais, l'oppression des ouvriers salariés, elle est contenue dans la technique même de la production et pas seulement dans des rapports de propriété et d'échange, et ben c'est ça qui fait que pour elle, une transformation simplement juridique, simplement politique au sens de changer les lois, est une impasse. Politiquement, c'est une impasse. Et ce qu'il faut faire, du coup, non pas simplement une révolution juridique, mais une révolution technique. Donc, pour elle, donc, c'est cette nouvelle séparation entre ceux qui disposent de la machine et ceux dont la machine dispose, séparation qui est intégrée à l'organisation même du travail, c'est ça qui rend impossible une chose, donc je cite, que c'est ça qui rend impossible que le système de production actuel puisse être mis par simple décret au service d'une société d'hommes libres et égaux. Autrement dit, il ne suffit pas d'un simple décret, il ne suffit pas de collectiviser les moyens de production par décret, quand bien même ce décret serait pris par la classe ouvrière qui se serait rendue maître de l'État central. Il ne suffit donc pas de collectiviser les moyens de production, de changer les rapports de propriété juridique pour libérer le travail, pour libérer l'activité humaine en général. Pourtant ça, bien sûr que toute la pensée marxiste est prise dans une logique de lutte des classes, une logique de lutte politique qui n'est pas juste une transformation juridique. Mais quand même, au moins une certaine lecture traditionnelle et traditionnellement hégémonique de la pensée marxiste dit que, en gros, le mode de production capitaliste, il se divise entre forces productives et rapports de production. Les forces productives, c'est l'ensemble des machines, l'organisation du travail, et les rapports de production, c'est les rapports juridiques, justement, qui règlent les rapports sociaux pour produire l'ensemble des choses nécessaires aux besoins sociaux. Et ce que dit le marxisme, c'est que dans le capitalisme, il se caractérise par des rapports de production particuliers qui sont la propriété privée des moyens de production, justement. Et qu'à un moment donné, si on veut libérer l'activité humaine, il faut changer ces rapports sociaux, il faut changer les rapports de propriété, abolir la propriété privée des moyens de production et proposer une propriété collective des moyens de production. Mais dans tous les cas, en gros, ce qu'il faut changer, c'est les rapports juridiques, les rapports sociaux. À aucun moment, il dit qu'il faut changer les forces productives elles-mêmes, les moyens de production eux-mêmes, pour changer de mode de production. Or, ce que dit Simone Veil, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de changer les rapports sociaux de production, des rapports juridiques qui organisent les relations entre les individus, il faut aussi changer les moyens de production eux-mêmes, les forces productives, la machine, quoi. Il faut changer la machine si on veut libérer l'activité humaine. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement de changer la machine, de transformer les moyens de production eux-mêmes? Elle dit ce qu'il faut abolir, c'est pas le travail, c'est ce qu'elle appelle à plusieurs reprises la dégradante division du travail manuel et du travail intellectuel. C'est-à-dire, au fond, la séparation entre ceux qui commandent et ceux qui exécutent. Entre le geste et le sens du geste. Je vous lis une citation qui explique un peu ce que ça veut dire. C'est extrait d'un cours qu'elle a donné dans la Bourse du Travail de Saint-Étienne, qui s'appelle « Le capital et l'ouvrier ». Donc cette citation dit « La révolution politique, la révolution économique, ne deviendront réelles qu'à condition d'être prolongées par une révolution technique, qui établira à l'intérieur même de la mine et de l'usine la domination que le travailleur a pour fonction d'exercer sur les conditions du travail. Rétablir la domination du travailleur sur les conditions de travail, sans détruire la forme collective que le capitalisme a imprimée à la production. La résolution de ce problème, c'est la révolution tout entière. » Voilà, il s'agit de prolonger, d'associer à la révolution politique et à la révolution économique une révolution technique. Et c'est quoi le but de cette révolution technique? C'est, et là je cite l'article Perspective, le but donc de cette révolution technique, c'est de donner à l'ouvrier la pleine intelligence de la technique au lieu d'un simple dressage, et de donner à l'intelligence son objet propre en la mettant en contact avec le monde par le moyen du travail. Je relis une fois cette phrase. Il s'agit donc de donner à l'ouvrier la pleine intelligence de la technique au lieu d'un simple dressage, et de donner à l'intelligence son objet propre en la mettant en contact avec le monde par le moyen du travail. Et c'est là qu'on retrouve le but qu'on s'était donné au départ. On s'était donné au départ l'enjeu qui était de réintroduire de la finalité dans le travail, de soustraire le travail à l'injonction productiviste, qui dit qu'il faut produire, c'est-à-dire qui fait du travail un simple moyen, qui est tout le temps en vue d'une fin qui ne s'arrête jamais, en réintroduisant dans le travail lui-même de la finalité. Et donc, comment on va faire ça? Elle a dit, pour ça, on ne peut pas se contenter de changer les rapports de propriété, les rapports sociaux, de prendre le pouvoir d'État et de changer les lois par la voie politique classique. Il faut changer les rapports de production, il faut changer la technique elle-même pour que, justement, la technique ne soit plus pensée comme un simple moyen destiné à produire le plus possible. Bon, concrètement, à part destituer les DRH, comment on fait? Elle propose un ensemble de pistes dans différents ouvrages pour arriver à ce but qu'on peut résumer à nouveau par la formule qui consiste à dire qu'il faut supprimer la dégradante division du travail en travail intellectuel et travail manuel, entre ceux qui disposent de la machine et ceux dont la machine dispose. Donc il y a au moins trois pistes principales qui sont proposées dans trois ouvrages différents. Donc ces trois pistes, elles consistent à d'abord un ensemble de, disons, une espèce d'utopie travailliste, en quelque sorte, qu'elle présente dans un ouvrage qui s'appelle L'Enracinement. L'Enracinement, c'est un livre qu'elle a écrit à Londres, donc juste avant de mourir, et qui est une commande de la France libre. En gros, elle est à Londres, elle veut absolument participer à l'effort de guerre et à la lutte contre les nazis. Sauf que, donc elle aimerait être envoyée au front, elle veut qu'on la parachute sur le front français pour servir d'infirmière de première ligne, etc. Bon, les dirigeants de Londres refusent, parce qu'ils n'ont pas du tout envie de parachuter Simone Veil au milieu du front, ça n'a pas de sens. Et du coup, il la foule dans un bureau et lui demande de rédiger des programmes pour la France d'après-guerre, pour la reconstruction. Et donc il y a un vrai enjeu politique, là, à dessiner la France d'après-guerre. Tout le monde sait l'importance qu'aura eu le CNR, on en parle beaucoup en ce moment. Et donc on lui demande d'écrire ce programme, un plan politique. Elle écrit L'Enracinement, qui est absolument inutilisable politiquement, qui est un ensemble de réflexions théoriques, poétiques, philosophiques, qui sont très très belles, mais qui, dans lesquelles il y a beaucoup de propositions concrètes, mais qui sont prises dans une espèce de réflexion très idéaliste et peut-être heureusement inutilisable, en tout cas directement par des institutions politiques. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que donc, c'est quelqu'un qui a milité parmi les militants communistes révolutionnaires opposés à l'URSS, qui c'est quand même très clairement qui est du côté de l'émancipation, et qui écrit un bouquin qui s'appelle L'Enracinement, en désignant comme mal moderne fondamental le déracinement. Et notamment le déracinement ouvrier, mais aussi le déracinement paysan. Mais bon, là, on va s'intéresser à la partie de l'ouvrage qui s'appelle le déracinement ouvrier. Et qu'est-ce qu'elle décrit dans cet ouvrage? Déjà, elle donne comme premier objectif pour surmonter la division du travail en travail intellectuel et travail manuel, le fait de trouver un type radicalement nouveau de machine. Pour trouver un type radicalement nouveau de machine, il faut mettre les ingénieurs au service de la révolution. Donc je vais vous lire un ensemble de citations, extraites donc du chapitre « Déracinement ouvrier » du livre « L'Enracinement ». Donc elle dit « À quoi sert-il aux ouvriers d'obtenir à force de lutte une augmentation des salaires et un adoucissement de la discipline ?» Si pendant ce temps les ingénieurs de quelques bureaux d'études inventent, sans aucune mauvaise intention, des machines qui épuisent leur âme et leur corps ou aggravent les difficultés économiques. Et jusqu'ici, autant qu'on le sache, cela n'a pas changé avec la nationalisation. Même la propagande soviétique n'a jamais prétendu que la Russie ait trouvé un type radicalement nouveau de machine, digne d'être employé par un prolétariat dictateur. Voilà, elle dit que ça sert à rien que les ouvriers luttent pour obtenir des augmentations des salaires et des disciplines moins pénibles, si pendant ce temps, les ingénieurs passent leur temps à essayer d'inventer des machines qui vont servir soit à détruire le travail des ouvriers, soit à épuiser leur âme et leur corps. Là aussi, il y a quelque chose de vraiment très très lucide à écrire ça en 1943. Puisque on sait que voilà, les progrès de l'émancipation des ouvriers n'ont pas mené nécessairement à un travail plus libre, que ce soit dans les usines, les ateliers ou dans les bureaux. Justement parce qu'on invente en même temps des machines qui soit détruisent le travail et mettent les gens au chômage, soit rendent le travail de plus en plus absurde. Je vous lis une deuxième citation. Jusqu'ici, les techniciens n'ont jamais eu autre chose en vue que les besoins de la fabrication. S'ils se mettaient à avoir toujours présent à l'esprit les besoins de ceux qui fabriquent, la technique entière de la production devrait être peu à peu transformée. Donc voilà, elle dit ça, elle dit en gros, voilà, il faut mettre les ingénieurs, il faut mettre les techniciens au service de la révolution technique, ça veut dire quoi? Il faut qu'ils se mettent non, eux-mêmes dans les problèmes techniques qui se posent, il ne faut pas qu'ils se les posent seulement dans les termes de comment produire le mieux et le plus vite l'objet qui est le but de la production, mais comment le moment même de la production peut être un moment digne d'intérêt, qui soit un moment où l'âme et le corps du travailleur soient pris dans leur dignité. Et après, elle se met à essayer de décrire qu'est-ce que ce serait une machine qui soit adaptée aux besoins de ceux qui travaillent et pas aux besoins de la production, non pas du produit, quoi. mais du producteur. Et elle dit voilà, il faudrait que ce soit une machine qui soit souple, que le travailleur puisse s'approprier, qui soit orienté vers différents types de production. Bon, après, elle, justement, c'est pas une technicienne, mais elle a travaillé en usine. Du coup, et puis ça date de 1943, donc c'est pas directement réutilisable. Par contre, l'idée qu'il faut que le problème technique ne soit pas un problème de productivité, mais un problème qui prend en compte le moment même du travail, ça, je trouve que c'est encore complètement à l'ordre du jour. Et elle ajoute aussi, évidemment, qu'il s'agit de soustraire le domaine de l'invention technique aux intérêts du capital, quoi, et qu'il faudrait que les techniciens soient payés par des coopératives ouvrières. Ça le glisse comme ça, mais c'est évidemment très important. Pour en revenir à notre but, on voit bien que là, l'enjeu, c'est que les moyens de la production, en termes marxistes, donc, et pas seulement les rapports sociaux de production, les moyens de la production, c'est-à-dire les machines et l'organisation du travail, donc que ces moyens de production soient, eux aussi, considérés comme une fin, au lieu d'être tout entier orienté vers le but extérieur qui est de produire. C'est comme ça qu'on fait pour réintroduire de la finalité dans le travail, et donc pour le placer à égale dignité de ces autres activités que sont l'action et la contemplation. Si on veut que le travail soit un moment à part entière de l'existence, qu'il ne soit pas une activité dont on cherche à faire l'économie, alors il faut penser des machines et une organisation du travail qui soit vivable et désirable. Ça, c'est ce qu'elle dit dans Déracinement ouvrier. L'autre piste qu'elle lance pour parvenir à ce but, c'est de constituer une culture technique. Je vous lis une autre citation. La tâche de l'école populaire est de donner au travail davantage de dignité en y infusant de la pensée, et non pas de faire du travailleur une chose à compartiment, qui tantôt pense et tantôt travaille. Et ça, pareil, je trouve que c'est encore tout à fait actuel, dans la mesure où il y a la culture technique au sens propre, c'est vraiment pas quelque chose qui est transmis à l'école, et où on considère souvent que étudier et travailler, c'est des moments distincts qu'on peut éventuellement travailler le matin, étudier l'après-midi, et que ça fait de soi un être complet, mais c'est rarement pris dans un mouvement comme ça aussi cohérent. Il s'agit d'infuser de la pensée dans le travail, et pas de faire du travailleur une chose à compartiment qui tantôt pense et tantôt travaille. Il faut penser ce qu'on fait. Voilà. Et après avoir dit ça, à la fin de son chapitre, donc, elle fait un espèce de résumé qui, pour le coup, là, correspond vraiment à une espèce d'utopie travailliste. Enfin, elle décrit un peu comme si, concrètement à quoi pourrait ressembler un monde si on appliquait les idées que là, elle présente. Et ce résumé-là, elle dit, ce serait une sorte de plan de réenracinement ouvrier. Et il est urgent de penser un plan de réenracinement ouvrier. Et pour ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Elle dit, il faut absolument détruire la grande industrie. Il faut la répandre en petits ateliers. Qui soit coordonné quand même, où il y ait une usine centrale sur le territoire, mais où par contre les ouvriers aillent travailler de manière tournante, quoi, qui travaillent dans les petits ateliers, en petites équipes. De temps en temps, il y en a qui aillent à l'usine du centre pour se retrouver et se coordonner les uns les autres. Elle dit aussi que c'est très important de retrouver une maîtrise du temps, c'est-à-dire qu'il y ait une commande qui est, par exemple, que les petits ateliers aient 2 semaines pour l'exécuter et qu'ils aient la maîtrise de leur temps pendant ces 2 semaines, très loin du travail aux pièces, qui est celui dont elle a fait l'expérience en usine. Elle parle aussi de l'importance des fêtes pour justement avoir une culture technique, une culture liée au travail qui est liée à ces territoires-là. Elle dit aussi, elle parle aussi de l'importance des voyages. Il faut que les jeunes ouvriers ou les jeunes travailleurs puissent voyager pour voir justement connaître le territoire, connaître l'ensemble de la chaîne de production et aussi les différents usages des pièces qu'ils produisent. Elle parle aussi de l'importance d'avoir une propriété des machines qui soit pas forcément collective au niveau de la société tout entière, mais qui soit individuelle, soit liée aux ateliers, et qui soit redonnée à l'atelier à la mort du travailleur, etc. Bon, je ne détaille pas tout, vous pouvez aller voir ce bouquin, c'est assez facile d'accès. Mais je vais vous lire quand même juste une dernière phrase, parce qu'il me semble que ça aussi c'est très très actuel. Parce que du coup, elle intègre au temps de travail un temps d'études, qui n'est pas une étude d'autres choses séparées, même si elle dit que la culture générale c'est important, mais qui est une étude qui consiste à connaître la fonction exacte des pièces produites et des difficultés surmontées par le travail des autres. Elle consiste aussi à apprendre où vont les produits fabriqués, quels êtres humains en font usage, dans quelle espèce de milieu, de vie quotidienne, d'atmosphère humaine ces produits tiennent place, et quelle place. Ça, elle dit que c'est impératif pour toute personne qui travaille, donc de savoir où vont les produits, quels humains en font usage, dans quel type de vie et d'atmosphère humaine on a usage des objets qu'on fabrique. Ça, c'est la seule manière de se réapproprier la finalité du travail. Je m'arrête pour l'enracinement, ça c'est donc cette espèce d'utopie travailliste là, où elle décrit quelles doivent être les formes du travail pour que celui-ci soit une activité non servile. Et je vais m'intéresser à une distinction un peu plus précise, puisque donc elle dit dans l'enracinement qu'il faut retrouver une maîtrise du temps, mais plus précisément, elle va travailler une distinction entre deux rapports au temps très différents qui font d'un côté le travail aliéné et de l'autre le travail non servile, qui est une distinction entre le rythme et la cadence. Donc, une deuxième piste après l'utopie travailliste de l'enracinement pour avoir un travail non servile, qui est extraite d'un ouvrage qui s'appelle Journal d'usine. En gros, pendant qu'elle allait bosser en usine, elle a écrit un journal, enfin, elle tenait un journal où elle écrit très précisément le nombre de pièces qu'elle a fabriquées, à quel point elle a galéré, à quel endroit elle s'est blessée, combien d'argent elle a gagné, etc. C'est assez laborieux à lire, ça correspond sans doute assez bien à l'expérience qu'elle a vécue. Et là-dedans, à la fin, il y a quelque chose qui s'appelle Journal d'usine, donc. Et dans ce texte, elle explique la distinction entre rythme et cadence. Donc, je vous lis la citation qui est un peu plus longue. La succession de leurs gestes n'est pas désignée, aux ouvriers donc, n'est pas désignée dans le langage de l'usine par le mot de rythme, mais par celui de cadence. Et c'est juste, car cette succession est le contraire d'un rythme. Toutes les suites de mouvements qui participent au beau, et s'accomplissent sans dégrader, enferment des instants d'arrêt, brefs comme l'éclair, qui constituent le secret du rythme, et donnent au spectateur, à travers même l'extrême rapidité, l'impression de la lenteur. Au contraire, le spectacle de manœuvres sur machine est presque toujours celui d'une précipitation misérable, d'où toute grâce et toute dignité sont absentes. Il est naturel à l'homme, et il lui convient de s'arrêter quand il a fait quelque chose, fût-ce l'espace d'un éclair, pour en prendre conscience. Cet éclair de pensée, d'immobilité et d'équilibre, ce qu'il faut apprendre à supprimer entièrement dans l'usine, quand on y travaille. Les manœuvres sur machine n'atteignent la cadence exigée que si les gestes d'une seconde se succèdent d'une manière ininterrompue et presque comme le tic-tac d'une horloge, sans rien qui marque jamais que quelque chose est fini et qu'autre chose commence. Donc voilà, ce qui fait la distinction entre rythme et cadence sont ces instants d'arrêt, qui en fait sont des instants de contemplation intégrés au temps de travail. On regarde ce qu'on a fait. Et on prend le temps de regarder ce qu'on a fait, de contempler ce qu'on a fait, et d'en comprendre le sens. C'est à ce moment-là, sans doute, que l'ensemble des connaissances, là, de où vont les pièces, qui les fabrique, comment c'est galère ou pas, et qui en a usage, que ces connaissances-là, elles prennent leur sens. Parce que si un ouvrier d'une usine des années 30 s'arrête une seconde pour regarder ce qu'il fait, et s'il a la moindre idée de ce qu'il fait, il a envie de s'arrêter, il reprend plus. Ça n'a pas de sens. Et un peu plus loin dans le texte, elle a une affirmation qui est nettement plus scandaleuse, mais qui s'appuie en fait sur cette différence, puisqu'en gros, disant cela, en disant que la différence entre rythme et cadence, c'est pas une question de temps de travail au fond. C'est pas parce qu'on travaille moins qu'on change la cadence en rythme, et qu'on a il s'agit de changer la qualité du temps. C'est ça qu'elle dit en gros. Il ne faut pas lutter seulement pour diminuer le temps de travail, augmenter les salaires, que ça changera rien au fait que le travail est un travail d'esclave, si c'est un travail qui n'a pas de sens, qui est sans fin, qui est pris dans une activité de productivisme. Et elle dit ça un peu plus loin, donc elle explique un peu plus loin ce que ça implique, cette distinction entre rythme et travail en termes de stratégie révolutionnaire. Donc je vous lis cette citation qui est un peu plus scandaleuse. « Certains annoncent une diminution, d'ailleurs ridiculement exagérée, de la durée du travail. Mais faire du peuple une masse d'oisifs, qui serait esclave 2 heures par jour, n'est ni souhaitable quand ce serait possible, ni moralement possible quand ce serait possible matériellement. Nul n'accepterait d'être esclave 2 heures. L'esclavage, pour être accepté, doit durer assez chaque jour pour briser quelque chose dans l'homme. S'il y a un remède possible, il est d'un autre ordre, et plus difficile à concevoir. Il exige un effort d'invention. Il faut changer la nature des stimulants du travail, diminuer ou abolir les causes de dégoût, transformer le rapport de chaque ouvrier avec le fonctionnement de l'ensemble de l'usine, le rapport de l'ouvrier avec la machine, et la manière dont le temps s'écoule dans le travail. » Quand elle dit ça, en fait, elle a une prise de position qui est assez radicale contre la stratégie dominante du mouvement ouvrier à son époque, et encore un peu aujourd'hui, qui est vraiment centrée sur le temps de travail. Et je vous rappelle la citation de Paolo Virno du début, là, qui disait qu'avec la fin de la lutte sur le temps de travail, finissait la gauche. Elle dit là que gagner du temps libre, c'est pas ça qui va soustraire les individus à la domination de la machine. Au contraire. Peut-être qu'on travaillera un peu moins, et de fait on travaille moins, beaucoup moins longtemps, que dans les années 30 et encore moins longtemps qu'à la fin du 19e siècle. Mais elle dit que ce temps de travail diminué sera toujours du travail d'esclave, du travail au sens strict d'Anna Arendt, là, un travail qui est complètement soumis à une nécessité extérieure, on ne maîtrise rien, et que le temps libre qu'on aura dégagé, ce sera un temps vide, un temps de loisir vide, et que du coup, on va remplir par du nouveau travail en allant sur Facebook remplir les algorithmes. Donc elle dit que si l'enjeu, ça ne peut pas être ça, ça ne peut pas être juste de réduire le temps de travail, il s'agit donc, si ce n'est pas ça, il faut changer la qualité du temps. Et en faisant ça, elle critique vraiment violemment la politique des revendications, la politique des revendications juridiques qui demandent par des lois de réguler le temps de travail. Après, ce qui est important, c'est qu'en faisant cette critique, jamais non plus, elle a cessé de soutenir les luttes ouvrières effectives, pendant les luttes des grandes grèves ouvrières de 1936. Elle a participé aux occupations d'usines, elle est retournée dans les usines, elle est partie bosser. Il y a des textes écrits là-dessus sur la vie et la grève des ouvrières métallos, et elle considère comme une joie pure, une joie infinie, ces moments d'occupation, de suspension du travail, et également comme des acquis réels, les acquis sociaux qui sont acquis après. Simplement, là, quand elle écrit ces textes-là, elle voit les limites de la stratégie, elle les pointe et elle essaye de la modifier. Mais ça se dissocie jamais d'un engagement réel aux côtés des luttes ouvrières. Et c'est quelque chose qui est assez important dans son attitude philosophique et politique. Et cette critique-là, disons, de la politique des revendications, et donc, plus généralement, en fait, ce qu'elle critique vraiment, c'est les représentants syndicaux, disons, vraiment les cadres syndicaux qui font des négociations avec l'État. Et aujourd'hui, c'est encore plus vrai, encore plus partagé, cette critique du syndicalisme. Et du coup, elle a une image assez frappante de la critique du syndicalisme et de la stratégie syndicale de négociation, qui est dans un autre bouquin, qui lui s'appelle « La personne et le sacré », mais je vous la lis parce qu'elle est à la fois drôle et très frappante. Donc voilà, elle critique les revendications en disant « Imaginons que le diable est en train d'acheter l'âme d'un malheureux, et que quelqu'un, prenant pitié du malheureux, intervienne dans le débat et dise au diable « Il est honteux de votre part de n'offrir que ce prix. L'objet en vaut au moins le double. » Cette farce sinistre est celle qu'a joué le mouvement ouvrier, avec ses syndicats, ses partis, ses intellectuels de gauche. Cet esprit de marchandage était déjà implicite dans la notion de droit que les gens de 1789 ont eu l'imprudence de mettre au centre de l'appel qu'ils ont voulu crier à la face du monde. Donc voilà, la stratégie syndicale, ça se résume par le diable, donc les capitalistes en train d'acheter l'âme des malheureux, les prolétaires, et puis le syndicaliste, c'est celui qui intervient pour dire « s'il te plaît, donne-lui le double ». Mais bon, pour revenir à la proposition de Veil, qu'est-ce qu'il s'agit de faire ? Il s'agit d'introduire du rythme, c'est-à-dire des temps d'arrêt, c'est-à-dire de la contemplation dans le travail, pour y introduire de la finalité. Et l'objectif, c'est ça. Ça, c'est une phrase qu'elle a placée en exergue de son journal d'usine, c'est-à-dire qu'elle a écrit au début et qui correspond un peu à une formule comme ça qu'elle se répétait, qu'elle met au début pour marquer les esprits et son esprit. Donc je vous lis cette phrase. Non seulement que l'homme sache ce qu'il fait, mais si possible qu'il en perçoive l'usage, qu'il perçoive la nature modifiée par lui, que pour chacun, son propre travail soit un objet de contemplation. Voilà les différentes pistes qu'elle propose pour répondre à comment est-ce qu'on fait pour détruire l'oppression qui distingue qui disposent de la machine et ceux dont la machine dispose. Et donc on met les techniciens au service de la révolution, on crée une culture technique, on fait en sorte que ceux qui travaillent aient des connaissances sur à la fois le milieu, l'usage et les objets qu'ils fabriquent. On introduit du rythme dans le travail et on arrête de croire qu'il faut seulement lutter pour une diminution du temps de travail. Et la dernière piste, c'est un extrait d'un dernier bouquin, qui s'appelle donc « Conditions premières d'un travail non servile ». C'est un tout petit texte d'une cinquantaine de pages, qui n'est pas publié de son vivant. Et là, je vais vous lire un extrait beaucoup plus long, parce que je ne vais pas beaucoup le commenter, je vais juste le lire. Ce dernier texte, donc, c'est une autre manière encore d'introduire de la finalité dans le travail, autrement que par le rythme, autrement que par la technique et l'appropriation des moyens de production. Et donc voilà ce qu'elle dit dans ce texte, « Conditions premières d'un travail non servile ». Il y a dans le travail des mains, et en général dans le travail d'exécution, qui est le travail proprement dit, un élément irréductible de servitude, que même une parfaite équité sociale n'effacerait pas. C'est le fait qu'il est gouverné par la nécessité, non par la finalité. On l'exécute en vue d'un besoin, non en vue d'un bien, pour gagner sa vie. On fournit un effort, au terme duquel on n'a pas autre chose que ce qu'on a. C'est ça, le travail. Mais il n'y a pas pour l'effort d'autre source que le désir. Et il n'appartient pas à l'homme de désirer ce qu'il a. Le désir est une orientation, un mouvement vers quelque chose. Si le mouvement, à peine commencé, se boucle sur le point de départ, on tourne, comme un condamné dans sa cellule. Tourner toujours produit vite l'écœurement. L'écœurement, la lassitude, le dégoût, c'est la grande tentation de ceux qui travaillent, surtout s'ils sont dans des conditions inhumaines, et même autrement. L'unité de temps est alors la journée. Dans cet espace, on tourne en rond. Ce vide pesant fait beaucoup souffrir. Il ne fait pas mourir, mais il est peut-être aussi douloureux que la faim. Il n'y a pas le choix des remèdes. Il n'y en a qu'un seul. Une seule chose rend supportable la monotonie. C'est une lumière d'éternité. C'est la beauté. Il y a un seul cas où la nature humaine supporte que le désir de l'âme se porte non pas vers ce qui pourrait être ou ce qui sera, mais vers ce qui existe. Ce cas, c'est la beauté. Tout ce qui est beau est objet de désir, mais on ne désire pas que cela soit autre. On désire cela même qui est. On regarde avec désir le ciel étoilé d'une nuit claire, et ce qu'on désire, c'est uniquement le spectacle que l'on possède. Puisque le peuple est contraint de porter tout son désir sur ce qu'il possède déjà, la beauté est faite pour lui, et il est fait pour la beauté. La poésie est un luxe pour les autres conditions sociales. Le peuple a besoin de poésie comme de pain. Non pas la poésie enfermée dans les mots. Celle-là, par elle-même, ne peut lui être d'aucun usage. Il a besoin que la substance quotidienne de sa vie soit elle-même poésie. Et un peu plus loin, elle précise un peu sa pensée, « Le point d'unité du travail manuel et du travail intellectuel, c'est la contemplation, qui n'est pas un travail. » Pourquoi la contemplation, c'est le point d'unité du travail manuel et du travail intellectuel ? Parce que c'est, en fait, c'est la même chose que ce qu'elle appelle ici poésie. C'est-à-dire, c'est ce qui fait qu'il y a de la finalité, qu'on peut juste regarder, contempler les choses, en percevoir la beauté et les désirer pour ce qu'elles sont. Et ça, elle dit que c'est le point d'unité du travail manuel et du travail intellectuel, parce que c'est ce qui fait que même dans un moment où on est en train d'œuvrer péniblement en vue d'autre chose, on peut, en de rares instants, s'arrêter, contempler ce qu'on fait, contempler le monde et le monde extérieur, y percevoir de la beauté, et donc qu'il y a de la finalité dans ce moment lui-même. Sauf que pour ça, il faut que ce soit possible, donc qu'on ne soit pas dans des conditions inhumaines, que la technique ne rende pas le travail, comme, ne vide pas l'âme et le corps du travailleur de toute forme de force, et tout ce qu'elle a décrit auparavant, quoi. Pour qu'il puisse y avoir de la beauté et de la contemplation dans le travail manuel comme dans le travail intellectuel, pour qu'il puisse y avoir de la poésie dans toute l'existence, il faut l'ensemble des conditions qu'elle a dit avant et qui sont des conditions sociales et politiques. Autrement dit, on réintroduit de la finalité dans le travail, on le met à l'égalité des autres types d'activités, sans rétablir de hiérarchie entre les genres d'activités, en introduisant, en fait, de la contemplation un peu partout. J'ai l'impression que c'est un peu ça, sa solution, quoi. Pour surmonter la division entre travail manuel et travail intellectuel, il faut pas juxtaposer les deux, il faut pas faire de la critique le soir, de la pêche le matin et de la chasse l'après-midi. Là-dessus, elle s'oppose très clairement à la proposition marxiste. On peut pas faire un peu de tout. Il faut approfondir suffisamment chaque activité pour qu'elle puisse devenir un objet de contemplation. Et qu'en gros, toute activité se rejoigne à égale dignité dans une forme d'attention au monde. Le concept d'attention, en fait, chez Simone Weil, c'est un concept qui est beaucoup plus présent que celui de contemplation. Ça, c'est le terme un peu classique, grec. Mais elle, ce qu'elle théorise vraiment beaucoup, c'est quelque chose qu'elle appelle l'attention. Et le plus haut degré de contemplation, c'est l'attention. Et l'attention, c'est ça, c'est juste être capable de percevoir le monde tel qu'il nous apparaît. Et justement, d'arrêter d'être centré sur soi, ses besoins, la nécessité extérieure, etc. Et pour elle, un travail libre, c'est un travail qui consiste à travailler, à se rendre attentif. Bon, donc voilà, c'est une vision assez différente du communisme que celle de Marx, au sens où, de ce que je disais tout à l'heure. C'est pas l'idée que tous, on a réduit suffisamment le temps de travail pour que tout le monde ait du temps libre et puisse faire un peu tout ce qu'il veut. C'est vraiment l'idée que chacun, dans son activité, continue d'être soumis à une certaine forme de nécessité, mais que les conditions du travail ou les conditions de l'activité sont telles qu'on y retrouve cette liberté, cette faculté d'attention au monde qu'elle appelle attention ou contemplation. Par rapport à la question qu'on posait au début, qui était est-ce qu'il faut se libérer du travail ou libérer le travail, Simone Weil, elle prend quand même très clairement position. Elle dit qu'elle ne reprend évidemment pas à son compte le mot d'ordre de refus du travail. Elle dit qu'elle est résolument du côté du travail libre ou du fait de libérer le travail. Mais évidemment, ça ne résout pas la question complètement, parce que on retrouve quand même un certain travaillisme au sens strict dans le point de la pensée de Weil. Il y a quand même une espèce d'éloge du travail qui n'est pas complètement compatible avec la lutte contre le salariat, ou en tout cas qui resterait à articuler avec une lutte contre le salariat ou contre les formes contemporaines du travail, même si elle l'articule, hein. J'espère qu'on l'a compris là, que c'est tout à fait articulé à une critique du productivisme. Mais bon, il me semble quand même que la pensée de Weil, elle est intéressante parce qu'elle trace une ligne comme ça, qui refuse à la fois la pure efficacité, dès que le travail c'est juste un moyen dont il faut faire l'économie, mais aussi le papillonnage, l'idée qu'on fait un peu ce qu'on veut, un peu de tout, et que là-dedans, c'est là-dedans qu'on s'épanouit et qu'on est libre. Il y a une espèce de sérieux dans l'activité qui est la condition d'une activité libre, qui, je trouve, trace voilà, une ligne intéressante. Et par contre, il y a quelque chose qui reste un peu de l'ancien monde, voilà, c'est quand même une pensée de 1930-1940, quand même quelque chose de l'ancien monde dans son éloge du travail, et du travail manuel en particulier, qui n'est pas intégralement réappropriable, et qui resterait adapté aux critiques contemporaines du travail.
C'était Simone Veil sur Radio Sans Contact. Une voix de plus qui s'élève pour nous conseiller de ne pas redémarrer la machine. Bon courage, bonne journée, bonne continuation.
Si cette émission vous a plu, vous pouvez aller lire d'autres cours de philosophie et écouter d'autres enregistrements sur un site internet qui s'appelle écoledephilosophie.org. Ce site y présente une formation continue de philosophie qui est mise en place depuis 2 ans. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a travaillé sur Simone Veil à quelques-uns, et ce sont ces travaux-là qui ont inspiré l'émission que vous venez d'écouter. Donc je rappelle l'adresse du site, c'est écoledephilosophie.org.